Slate Podcast.
Bonjour et bienvenue dans Ami, un podcast dédié à la redécouverte de Friends, la sitcom qui a donné envie à des millions de fans de vivre en coloc à New York, et j'ai testé et je peux vous dire que c'est pas aussi bien que dans la série.
Salut, moi c'est Anaïs Bordage, je suis critique de série et vierge de Friends, enfin en tout cas je l'étais avant que ce podcast démarre.
Et moi c'est Marie Telling, Friends c'est ma Madeleine de Proust et j'ai enfin trouvé une raison d'être payée pour la regarder grâce à ce podcast. En plus ça nous fait de nouveaux sujets de conversation avec Anaïs et comme on parle environ 8 heures par jour, c'était bienvenu. Cette semaine, on a regardé la deuxième moitié de la troisième saison de Friends, celle qui a lancé des milliards de débats pour savoir si, oui ou non, Ross et Rachel étaient on a break. Mais avant de parler de tout ça, un petit moment courrier des lecteurs. Anaïs, tu as eu des retours d'auditeurs dont tu voudrais parler.
Ouais, bah déjà, je voulais m'excuser parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire que mon amour pour Ross était absurde. Et il y a des gens qui m'en veulent beaucoup. Par exemple, Aurélie a dit « Il a jamais été ma cam et tu vas finir par me le faire trouver beau gosse. Il faut que ça cesse tout de suite. » Donc Aurélie, je suis désolée. Et il y a Miran qui m'a dit « Depuis que je vous écoute, je vois Ross sous un angle bien plus hot. » Donc je suis vraiment contente si à la fin de ce podcast, mon héritage, c'est que plein de gens ont vu la lumière sur Ross et ont décidé de le trouver hyper sexy.
Moi, toujours pas.
Mais attends, t'as le temps encore.
Ouais, on va voir.
On se demandait un peu à chaque fois pourquoi Ross fait un métier aussi absurde. On comprend pas ce qu'il fait en tant que paléontologue. Et Jean-Marie nous a écrit pour nous dire que selon lui, c'était une référence à Bringing Up Baby ou L'impossible Monsieur Bébé en français, qui est un film avec Cary Grant et Catherine Hepburn, dans lequel c'est un paléontologue un peu nerd qui tombe amoureux d'une meuf qui est un peu tête en l'air et un peu superficielle. Et donc, c'est vrai que je pense que cette théorie est correcte. J'ai pas trouvé de preuves.
Oui, moi non plus, j'ai regardé, du coup, j'ai pas trouvé.
Ouais, de la part des scénaristes. Mais c'est vrai qu'en plus, dans le film, il y a un moment où l'héroïne, donc jouée par Catherine Hepburn, a un incident avec sa robe et on voit ses fesses.
Ah,
alors
comme
qu'elle
Rachel.
Est à un dîner. Ouais, voilà, exactement comme Rachel pendant la scène du mariage. Donc je pense qu'il y a. Enfin, il doit y avoir quelque chose quand même, parce que ça fait beaucoup de coïncidences. Donc voilà, merci Jean-Marie d'avoir attiré notre attention sur ça. Et si jamais vous en savez plus sur cette théorie, sur le lien entre Friends et l'impossible Monsieur Bébé, bah écrivez-nous.
Ou si vous connaissez Martha Kaufman et David Crane, et ouais, vous pouvez nous filer leur numéro, et ben, dites-le nous aussi.
Voilà.
Avant de passer à la suite, Anaïs, on va écouter les prédictions que tu avais faites dans l'épisode précédent.
Précédemment, dans Annie.
Je pense que Ross et Rachel vont se séparer.
D'accord.
Je pense que je vais prédire ça à chaque fois jusqu'à ce qu'ils se séparent. Comme ça, il y a un moment où ça va quand même tomber juste. Je pense que là, il va sans doute y avoir un développement professionnel pour l'un d'entre eux, que ce soit Joey ou Monica.
Bon, bah, t'étais vraiment on point.
Ouais, grave. Effectivement, Ross et Rachel se sont séparés et Monica et Joey ont eu un peu des développements professionnels puisque Monica, elle a démarré un truc, enfin, elle a été embauchée comme chef.
Par Jon Favreau.
Par Jon Favreau, voilà, dont on reparlera.
J'en suis sûre, n'en doute pas,
voilà. Et Joey, bah, il a tout un truc avec une pièce de théâtre. Donc, franchement, je suis trop impressionnée par moi-même. Bravo, moi. Et alors, je voulais encore m'auto-congratuler un peu plus. Il y a un moment où j'ai fait une prédiction pendant que je visionnais les épisodes et je me suis enregistrée. On va écouter.
Je sens qu'on va découvrir que la meuf qui était la meilleure amie de la mère de Phoebe, en fait, c'est la mère de Phoebe.
Bon, si ça se trouve, tu as enregistré ça après avoir vu l'épisode pour faire genre...
Bah, là, il faut me faire confiance, mais bon, franchement, je serais vraiment totalement psychopathe si j'avais fait ça, quoi. Enfin, oui, juste pour prouver que j'ai deviné un truc. J'ai noté ça au tout début, dès qu'on rencontre ce personnage, et bon, c'est genre 20 minutes plus tard
qu'on apprend... C'est vrai qu'elle lui ressemble et qu'en plus, elle a des maniérismes qui sont très Phoebe dès le début. Donc, il y a vraiment une filiation assez évidente quand tu regardes le truc, quoi.
Ouais, c'était pas une énorme surprise non plus, mais j'étais quand même fière de moi d'avoir deviné ce petit truc.
Bon, passons aux choses sérieuses. Les épisodes qu'on vient de voir sont bien entendu marqués par la rupture de Ross et Rachel, comme on vient d'en parler. On n'a pas regardé les épisodes ensemble cette fois-ci, on voulait être complètement vierge quand on parle maintenant pour l'enregistrement. Mais tu m'as quand même envoyé quelques mémos sur WhatsApp. D'habitude, les mémos WhatsApp, c'est vraiment l'enfer, mais là, ça m'a fait beaucoup rire.
Est-ce que Rachel va coucher avec Marc ? Est-ce que Ross va se taper la meuf de la photocopieuse ? Je suis tellement angoissée, c'est horrible, j'en peux plus.
C'était stressant.
Ouais, très stressant. Mais bon, je crois qu'on a établi que je suis beaucoup trop stressée par cette série qui est juste une sitcom très innocente.
Oui, mais ces épisodes sont vraiment très stressants. Ils sont restés dans la légende comme des épisodes très, très angoissants.
Franchement, j'en pouvais plus, quoi.
Mais avant d'en arriver au moment de la rupture, on a droit à quelques épisodes de plus avec un Ross très jaloux. Moi, je l'appelle Toxic Ross. Il est vraiment chiant, quand même. Je sais pas ce que t'en as pensé de ces épisodes parce que bon, il se pointe à nouveau au travail de Rachel. Il a encore des remarques au sujet de Marc. Il est vraiment hyper pénible, quoi.
Bah, en fait, oui, là, il est insupportable, c'est clair. Et en fait, ce que tu disais la semaine dernière, où moi, enfin, j'étais pas forcément d'accord avec toi, où tu disais, mais ça se fait pas d'envoyer une boîte de chocolat au travail de sa meuf, enfin, où j'étais là, bon, ça va quoi, c'est pas non plus la fin du monde, mais là.
Non, mais il n'avait pas fait qu'envoyer une boîte de chocolat, déjà.
Oui, mais tu disais, même une boîte de chocolat, même juste un bouquet de fleurs, c'est hyper déplacé d'envahir l'espace professionnel de quelqu'un. Moi, je me disais, bon, c'est peut-être un peu extrême. Mais là, effectivement, enfin, il arrive alors qu'elle lui a dit, ne viens pas. Elle a une énorme crise au travail qu'elle doit résoudre. Et c'est censé être leur anniversaire. Alors déjà, bon, enfin... Est-ce qu'on peut arrêter de fêter les anniversaires de couple? J'ai jamais su à quelle date je me suis mise en couple avec quelqu'un. Enfin, c'est vraiment pas important, je pense. Mais bref. Donc, il débarque avec un petit panier pour faire un pique-nique et il est hyper relou.
Ross, honey, this is very nice, but I've got a crisis.
Yeah, but I've got couscous.
Honey, I'm sorry, I know it's our anniversary, but I told you on the phone, I don't have time to stop.
Okay, you don't have to stop. I'm invisible. I'm not here.
Là, ouais, il m'a vraiment agacée et il a perdu tout sex appeal. Et j'ai ressenti ce que tu disais la semaine dernière, en fait, sur le côté où là, ça se fait vraiment, vraiment pas. Et elle lui fait comprendre de plein de manières qu'il faut qu'il se casse et il veut pas l'entendre, quoi. Donc là, vraiment, j'ai trouvé ça insupportable. Après, la raison pour laquelle moi, je dirais pas forcément que c'est toxique, c'est qu'en fait... pour moi, la série n'est jamais de son côté. C'est-à-dire que la série nous montre exactement son comportement pour ce qu'il est. Et pour moi, en fait, souvent, dans des rom-coms ou des trucs comme ça, on nous présente quelque chose qui est toxique comme romantique. Le mec attrape la meuf et l'embrasse un peu de force. Et au début, elle se défend et après, elle se laisse faire. Ou le fait d'insister, en fait, très lourdement alors qu'une meuf t'a déjà dit non. Enfin, c'est souvent présenté comme romantique dans des œuvres alors que ça ne l'est pas du tout. C'est juste creepy. Et là, ce que j'apprécie de la part des scénaristes, en fait, c'est qu'ils sont pas du tout du côté de Ross et que tout le monde comprend très bien que son comportement est inacceptable.
Non, oui, c'est vrai. T'as vraiment raison. Mais c'est vrai que c'est le personnage en lui-même qui est toxique. Enfin, c'est son attitude qui est toxique. C'est pas la façon dont la série le présente. En fait, ou le fait que la série soit de son côté.
Ouais.
Ce que j'aime bien dans ces épisodes, c'est qu'on voit vraiment Rachel un peu sous un nouveau jour. Et c'est, pour moi, c'est parmi mes moments préférés de ce personnage. Elle a vraiment des très très bons moments, comme quand elle lui dit qu'en fait, elle aime le fait qu'il soit pas dans son espace professionnel et qu'elle aime le fait qu'elle partage pas ça avec lui, quoi. Et que c'est un truc privé et qu'elle aime le fait d'avoir cet espace pour elle, pour se développer là-dedans et s'épanouir là-dedans.
Doesn't mean that I don't love you, but my work, it's for me, you know? I'm out there on my own and I'm doing it. And it's scary, but I love it because it's mine.
Pour moi, j'ai noté que Rachel était vraiment super dans toute cette série d'épisodes. Et là, je vois vraiment tout ce que tu m'as dit sur elle, quoi.
C'est une héroïne féministe.
Non, mais c'est vrai. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment très, très bien écrite dans ces épisodes-là. Elle est hyper mature et elle ose vraiment sans problème lui dire non, je veux pas que tu t'incrustes dans mon taf. J'ai trouvé ça super, quoi.
C'est marrant. Alors, du coup, Ross n'est plus ton préféré?
Si.
Pourquoi? C'est à cause de... Alors, parce qu'il faut dire qu'il y a un moment pendant ces épisodes où j'étais en train de regarder, d'un coup je vais sur Twitter et je vois qu'Anaïs a tweeté sur le, je cite, le bubble butt de Ross, donc le cul-bulle de Ross, traduction littérale. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Bon, vraiment, un bubble butt, c'est des fesses très très rondes, quoi, pour... faire un point glossaire.
Franchement, ce podcast part dans des endroits où je ne penserais jamais qu'il irait, quoi.
Non, mais parce qu'en fait, il y a donc une scène où Marie m'avait fait un peu anticiper cette scène-là en me disant, tu vas voir, enfin, il y a un moment où il va être torse nu, tout ça.
Je t'ai pas dit que ce moment-là, parce que je t'ai demandé d'enregistrer ta réaction pendant cet épisode, mais je t'ai pas dit qu'il allait être torse nu.
Oui, mais non, mais tu m'as dit plusieurs fois depuis le début. Depuis
oui, mais je parlais pas de ce moment en plus.
Donc il y a d'autres moments où il va être torse nu. Oh mon dieu. Non, mais bon, bref. Donc je savais qu'à un moment, il allait être torse nu, et là, je savais que cet épisode, il allait se passer quelque chose, et quand j'ai vu Tiny T-shirt dans le titre, je me suis dit, bon, ça y est, quoi. Et donc effectivement, il se met torse nu, mais moi, mon attention, c'est vraiment tout de suite tourné vers ses fesses. Je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'il a vraiment, enfin, il a un cul hyper musclé en fait et hyper rebondi. Enfin voilà, bref.
Les réactions sur Twitter ont été un peu atterrées, j'ai l'impression, des gens qui ont vu ton tweet.
Mais c'est là aussi que plein de gens m'ont dit « Meuf, tu vas finir par me faire trouver Ross sexy, arrête tout de suite, quoi. »
Mais c'est vrai, après, en le revoyant, j'étais « elle a raison. » Je ne voulais pas voir Ross comme ça, mais c'est vrai. D'ailleurs, je t'avais demandé de t'enregistrer donc, pendant cet épisode pour voir ta réaction au moment Tiny T-shirt de Ross. Et on va t'écouter.
Ok.
Je ne comprends pas.
En vrai, là, je l'avoue, j'ai un peu surjoué parce que je savais que j'étais en train de m'enregistrer parce que on en avait discuté toutes les deux. Mais bon, voilà, j'étais surprise. Après, il est mieux dans le tiny t-shirt que quand il est torse nu.
Tu aimes le mystère, tu aimes conserver le
mystère. Ouais, c'est ça, j'aime deviner en fait.
D'accord. On va passer à autre chose. Et donc, bon, on en vient au moment fatidique, la rupture entre Ross et Rachel. Il y a deux épisodes qui tournent autour de ça. Après que Ross rende visite à Rachel, donc le jour de leur anniversaire au travail, ils ont une grosse dispute. Et Rachel dit « je pense qu'il faut qu'on fasse un break ». Et il répond même pas, il part et il claque la porte. Et plus tard dans l'épisode, Rachel va retrouver Marc pour discuter, mais il va rien se passer. Tandis que Ross va embrasser, puis coucher, avec la meuf de la photocopieuse. Et le lendemain, Rachel va découvrir ça. Et il y a une énorme engueulade qui dure vraiment la moitié de l'épisode, alors que les autres amis sont coincés dans une chambre.
Et ah c'est... oui, c'est vrai.
Mais quoi? Comment ça? Ah oui, c'est vrai.
Non, parce que j'avais noté, en fait, j'avais plus de souvenirs de la rupture en tant que telle. Je me souviens qu'ils se sont séparés, je me souviens de toutes leurs autres disputes, mais la rupture m'a pas marquée.
Ah bon?
Ouais.
D'accord. Bon, ben, ça dure la moitié d'un épisode.
Ouais,
donc,
c'est vrai. Maintenant, je m'en souviens. Tu as dit que tu voulais parler de ça, parlons-en. Comment
était-elle? Elle était awful.
Elle n'était pas bonne, pas
bonne. Rien comparé à toi. She was different. Oh.
Good, different.
J'avoue, hier, j'ai revu l'épisode une deuxième fois pour préparer le podcast. Une deuxième fois en une semaine, donc. Et je sais pas, j'étais un peu fatiguée. J'avais la gueule de bois et j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Alors que vraiment, c'est pas, normalement, je suis jamais émue par cet épisode, mais là, c'était un peu bizarre. Mais je trouve que vraiment, ils sont très bons dans cet épisode. Je sais pas ce que t'en as pensé. Mais apparemment, ça t'a pas marqué.
Non, mais c'est vrai qu'ils sont très, très bons. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans mes notes, j'ai vu la progression où dans l'épisode d'avant, quand il embrasse la meuf de la photocopieuse, j'ai noté, bon, ça va, c'est juste un petit bisou, no one needs to know. J'ai littéralement écrit ça. Parce que bon, moi, je suis pas très attachée à la monogamie comme système un peu ancestral. Mais quand j'ai vu qu'il avait couché avec elle, là, je me suis dit, bon, c'est vrai que littéralement 3 heures après qu'ils aient décidé de faire un break, c'est peut-être un peu rapide quand même.
Oui, puis c'est pas une question de monogamie, c'est une question de trahison. Enfin, c'est-à-dire que si t'es dans une relation monogame et qu'après tu vas voir ailleurs, là, il y a un problème. Alors que si t'es dans une relation où vous êtes d'accord pour aller voir d'autres personnes.
Oui, oui, mais bon, c'est juste, je me suis dit, bon, un petit bisou. Voilà, mais là c'est plus que, enfin bon, on va en reparler je pense de la définition de break et ce que ça veut dire quoi, mais j'étais très 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 anxieuse après à l'idée que, j'allais dire Jen, que Rachel découvre que Ross l'avait trompée, et je suis contente qu'ils aient mis fin assez rapidement à ce suspense là parce que c'était insoutenable, je suffoquais, j'avais tellement peur qu'elle le découvre. Mais non, c'est vrai qu'ils sont très très bons dans cette scène que j'avais totalement oubliée.
Mais moi je trouve que ce qui est limite pire, c'est justement qu'il essaie de le cacher quoi. Et que quand elle arrive chez lui,
oui,
la meuf soit encore là et qu'ils aient une espèce de conversation, de réconciliation, alors que la meuf est cachée derrière la porte avec qui il vient juste de coucher. T'avais oublié ça aussi, je le vois.
Non, ça, je m'en souviens. Mais après, ça, moi, ça m'a pas choquée puisque, enfin, Rachel débarque chez lui à 8h du mat le lendemain. Évidemment, elle vient de coucher avec la meuf. Bah, elle s'est pas rhabillée assez vite, mais, enfin, ça, pour le coup, bah, elle était chez lui. Enfin, tu vois, le pire, c'est plutôt qu'il ait couché avec elle, mais qu'elle soit là le lendemain, bon, bah, c'est pas.
Ouais.
Et il allait pas non plus lui dire, ah bah, tu tombes bien, et ouvrir la porte et dire, voilà, je te présente machin avec qui j'ai couché hier. Donc, mais après, oui, c'est vrai que comme il passe une certaine partie de l'épisode à vouloir effacer ses traces, ça, oui, c'est très, c'est très stressant. Enfin, moi, j'étais, mais hyper anxieuse, quoi.
Et donc, bon, depuis 20 ans, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais non, même pas depuis plus de 20 ans, parce que cet épisode a été diffusé en 96-97. Depuis plus de 20 ans, la question de savoir si c'était vraiment on a break ou pas déchire tous les fans de Friends. Donc, c'est très important.
We were on a break!
Est-ce que tu penses qu'ils étaient on a break? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être on a break, selon toi?
Bah, pour moi, enfin, le problème, c'est qu'ils auraient dû définir les modalités ensemble.
Bah, ouais.
Enfin, je pense que c'est excusable, parce que, effectivement, l'excuse du break, c'est un peu une carte passe-partout, tu vois.
Mm-hmm.
Mais après, j'ai été choquée, moi. Enfin, parce que je savais que ça allait blesser Rachel. Après, voilà, moi, je suis pas hyper, enfin, je pense qu'on peut s'arranger un peu. En fait, je me demandais ce que toi t'en penses.
Ben moi, en fait, j'ai pas vraiment d'opinion très fixe dessus. Non, mais c'est vrai, c'est un peu con parce qu'on a le débat que tout le monde a, mais on a aucune.
Nous, on l'a
nous.
Pas.
Voilà, exactement. Mais j'ai pas une opinion. Enfin, je vois le point de vue de chacun. Je comprends qu'elle s'en trahit. Moi, le truc, c'est plus quand elle lui dit ça et qu'il part de suite sans avoir de conversation là-dessus en disant mais qu'est-ce que tu veux dire par on fait un break. Mm. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper immature et il abandonnait vraiment la relation et c'est ça qui m'a un peu énervé. Et du coup, après qu'il utilise ça comme excuse alors qu'ils ont pas fini cette conversation et que vraiment ils étaient on a break, mais enfin bon, elle a émis ça comme possibilité, il a claqué la porte quoi. Ouais. Donc ça, je trouve ça un peu malhonnête, mais et je comprends qu'elle se sent trahie. Après, je comprends qu'il utilise ça comme excuse aussi, et puis au final, je m'en fous un peu.
Oui,
pour être honnête.
Là, c'est pareil. Enfin, je m'en fous un peu, et puis je trouve que ça rajoute une bonne tension en fait. Et c'est, on en a déjà parlé. Moi, j'attendais que ça, qu'il y ait un peu plus de difficultés pour Ross et Rachel. Donc, en tant que outil scénaristique, j'étais contente que ça se produise. Après, moi, ce qui m'a le plus dérangé, je pense, dans cette plotline, c'est surtout que la meuf de la photocopieuse, désolée, en plus je me souviens pas de son nom, c'est qu'elle a un peu slut-shamé. Enfin, qu'elle est vraiment, elle a été écrite comme une salope. Enfin, vraiment, quoi. C'est-à-dire
ah,
qu'elle...
tu trouves ?
Le premier truc qu'elle fait quand on la voit, c'est qu'elle propose un plan à trois à Joey et Chandler. Et toutes ses interactions avec les autres personnages, c'est... Enfin, en gros, je couche un peu avec qui je veux, quand je veux. Ce qui est... Enfin, moi, je trouve ça très bien. Mais je trouve que le personnage est un peu écrit comme une fille facile.
Ah ouais ?
Ouais.
Moi, j'avais pas vu comme ça, mais oui, d'accord. Mm. Du coup, le reste de la saison tourne beaucoup autour de la rupture et de la façon dont elle impacte la dynamique du groupe, un peu comme un divorce. Hein. T'en as pensé quoi ?
L'impact que ça a sur le groupe est un peu exploré dans les épisodes d'après. Et moi, ce qui m'a vraiment, là pour le coup, agacé chez Rachel, c'est quand ils sont bloqués dans la neige.
Oui.
Et qu'elle refuse absolument d'appeler à l'aide Ross, alors que, enfin, ils vont mourir d'hypothermie, en fait. Donc j'avais envie de dire, meuf, enfin, c'est pas grave, il va venir te chercher, quoi. Fin...
Non, mais je suis d'accord, c'est un peu le moment d'immaturité qu'elle a et tout ça. Je comprends qu'elle se sent trahie et tout, mais il y a un moment où t'es là, bon, il a couché avec une autre, mais c'est bon, vous êtes au milieu de la neige, quoi. Mais...
Oui, voilà, vous pouvez être dans la même voiture, ça va être chiant, mais, enfin, c'est mieux que mourir de froid, quoi.
La trame de la rupture se poursuit jusqu'au dernier épisode de la saison, où les amis sont à la plage et où Ross vient avec sa nouvelle meuf, Bonnie, et là, il y a une scène un peu, qui est devenue assez culte, où Rachel convainc Bonnie. Moi, je pense qu'elle convainc pas Bonnie. Je pense que Bonnie était prête à se raser la tête et que Rachel l'a juste un peu... Elle était là, ah bah ouais, c'est super, ça tirait hyper bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'elle est un peu mesquine de convaincre Bonnie de se raser la tête pour un peu la rendre moins attrayante aux yeux de Ross. Mais pour être quelqu'un qui s'est coupé les cheveux très très courts plusieurs fois, j'avais pas besoin de quelqu'un que... Enfin, il suffisait que quelqu'un me dise oui, oui, vas-y, fais-le. J'étais là, oui, bah allez, je vais le faire. Donc, je pense que Bonnie était prête à le faire, quoi.
Je sentais que tu anticipais un peu, enfin que tu te demandais comment j'allais réagir à ce passage-là, parce qu'on avait déjà parlé un peu du côté gamin de Rachel ou du côté cruel, où tu disais elle fait des trucs assez cruels parfois. Donc je me suis demandé si ça en faisait partie.
Tu me connais tellement bien.
Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que elle avait totalement envie de le faire. Et donc, moi, j'ai noté you go girl. Enfin, franchement, elle a l'air hyper contente de sa coupe de cheveux. Donc là, encore une fois, ce qui m'a énervée, un peu comme la fille de la photocopieuse, c'est plus l'écriture de Bonnie, où encore une fois, là, il y a beaucoup de références au fait qu'elle parle de sa vie sexuelle et qu'elle a couché avec des gens dans tous les pays, tout ça, et qu'elle est tout le temps en maillot de bain et qu'elle adore un peu s'exposer. Et moi, j'ai envie de dire, c'est une héroïne. Enfin, tu vois, elle est hyper à l'aise dans son corps. Elle a envie de se raser la tête. Trop cool pour elle. Et ce qui est agaçant, c'est plus que c'est entendu que de manière évidente dans la série qu'une meuf qui se rase le crâne, c'est pas sexy, quoi. Et que ça pourrait pousser Ross à la rupture parce que, oh mon Dieu, elle est laide alors qu'elle s'est rasée. Ça, c'est un peu agaçant. Mais bon, après, faut pas en attendre trop, je pense, d'une série des années 90 sur le sujet du crâne rasé, quoi.
Pourtant, il y a Sinéad O'Connor à l'époque.
Ouais.
C'est magnifique. Pour finir cette partie sur Ross et Rachel, qui est quand même très centrale à cette partie de la saison, tu voulais qu'on parle de leur tension sexuelle. Alors, je sais pas trop pourquoi, mais vas-y.
Bah non, mais parce que pour moi, c'est l'élément, le plus important de ce segment-là d'épisode, même plus que leur rupture, c'est un peu leur réconciliation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus délicieux dans ces épisodes. C'est la tension sexuelle qui se réinstalle entre eux. Où là, du coup, je trouve que Ross reprend un peu de gigalon niveau sexy. Et il y a notamment le moment où Rachel a une côte cassée et donc Ross passe une partie de l'épisode à l'aider à se préparer, à se maquiller, c'est très très drôle. Et en fait j'ai beaucoup beaucoup aimé cet épisode parce qu'il y a une tension sexuelle entre eux qui est, bah, je pense, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs épisodes de Ross et Rachel, en fait, depuis le début. J'ai adoré et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était réalisé puisque quand elle apprend que Ross a sacrifié un peu sa soirée pour elle, ils sont tous les deux filmés en gros plan. Alors que c'est très, 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 très rare dans la série. Souvent, ils sont filmés à la taille ou en plan américain. Et là, ça renforce une intimité hyper forte entre eux et je l'ai vraiment noté parce que c'est très rare dans la série qu'ils soient filmés comme ça. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode pour cette raison.
Cool. Bon, du coup, dans cette moitié de saison, le reste du groupe passe un peu au second plan. L'intrigue principale, c'est vraiment Ross et Rachel. Mais il y a quand même quelques trucs dont je voulais parler avec toi pour savoir ce que tu en as pensé. La première chose, c'est le frère de Phoebe et sa meuf qui est sa prof, en fait, Mrs. Knight, que les fans de That 70 Shows reconnaîtront comme la mère d'Eric Foreman. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intrigue?
Bah, c'est hyper gênant. En plus, au même moment, j'étais en train de regarder une série actuelle qui s'appelle A Teacher, qui parle d'une relation abusive entre une prof et son élève lycéen. Et c'est vraiment présenté comme... Enfin, elle va en prison, quoi, à la fin. Donc là, vraiment, c'était très, très gênant de voir ça. Surtout qu'ils se réconcilient à la fin de l'épisode où Phoebe essaye un peu de leur faire voir la lumière et de les convaincre de se séparer. Et ils finissent par se remettre ensemble. Donc, clairement, ça a très mal vieilli aujourd'hui de voir ça. C'est très malaisant, quoi.
Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait beaucoup rire dans la saison?
Ouais, bah déjà, Joey me fait tout le temps mourir de rire.
Oh daddy, oh mommy.
On va écouter un extrait tout de suite.
Oh mommy, oh daddy, I am a big old daddy. Oh mommy, oh daddy, I am a big old daddy.
Je savais que ça allait te faire rire.
Voilà, ça c'est vraiment, j'étais morte de rire. Alors un autre truc, mais je m'en remets pas, c'est quand ils sont bloqués dans la neige justement et qu'il essaye d'écrire help dans la neige et qu'il écrit play. Parce que pour lui, les gens vont lire à l'envers s'ils passent, s'ils survolent. C'était mais hilarant. En fait, j'adore le type de comédie du personnage de Joey, quoi, parce que c'est souvent de la comédie physique. Ouais, et il est tellement bon. Enfin, je l'adore, mais vraiment. Je l'aime, quoi.
Moi, j'adore quand il dit « These little women », quand il lit les quatre filles du Dr. March que lui prête Rachel. Mm. Il est tout le temps en train de dire « These little women
». Ouais. C'était très, très drôle. Et ça, j'avais déjà vu des extraits de ça, mais ça m'a beaucoup fait rire. Et il y a un autre truc qui m'a fait mourir de rire, c'est quand Ross arrive justement avec le costume qu'il aimerait mettre pour passer à la télé, je crois. Et c'est un costume blanc avec un petit nœud pape. Et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au colonel Sanders, qui est donc le fondateur de KFC, qui est sur le logo maintenant. Et donc, on va écouter, ça m'a vraiment beaucoup fait rire, il y a un enchaînement de blagues en fait qui sont super.
Guess what?
Got a job on a riverboat?
You know what? I didn't wear this suit for a year because you hated it. Well, guess what? You're not my girlfriend anymore, so.
Oh, I see. So this suit is making a point. Right. Now that you're on your own, you're free to look as stupid as you'd like.
You like it, right?
Oh, absolutely. I like it even more on you than I did on Colonel Sanders. Ross, I'm kidding. Yeah, I'm here. What were you going to tell us? Yeah. Oh, was it how you invented the cotton gin?
Oui, du coup, à cause de son costume, donc elles lui disent d'abord « Est-ce que tu travailles sur un riverboat ?» C'est les grands bateaux qu'on voit sur le Mississippi, en fait, aux États-Unis. Donc, ouais. C'est vraiment le sud des États-Unis, enfin, un peu vieillot, quoi. Ouais. Et après, il y en a une autre qui dit... Enfin, Monica lui dit que ça lui va encore mieux qu'au colonel Sanders, et donc le mec qui a fondé KFC. Et ensuite, Rachel reprend en disant « Est-ce que tu as inventé le cotton gin ?» Enfin, c'est une série de blagues de référence sur le sud des États-Unis et le fait qu'il ressemble, oui, à un peu un blanc du sud des États-Unis.
Ouais, voilà, un vieux mec de Louisiane qui posséderait une plantation, quoi.
Exactement.
Non, ces blagues étaient excellentes.
Et est-ce qu'il y a des trucs, au contraire, que t'as trouvé nuls?
Ouais, alors, il y a déjà un très bon exemple de ce que je n'aime pas du tout dans Friends. C'est quand Joey et Chandler adoptent un canard et un poussin. Alors ça, c'était très mignon. Mais en fait, ils ont toute une dispute qui est censée reproduire une dispute de parents. Où en fait, il dit « Mais tu sais à quelle heure je me suis levée, moi, cette nuit, pour m'en occuper ?» Et là, il y a un autre qui lui dit « Mais moi aussi, quand tu te lèves, je me lève avec toi. » Et en fait, c'est vraiment le genre de truc, on en avait déjà parlé, où quand il file un peu des métaphores comme ça, où il parle d'une chose, mais en fait, il est censé parler d'autre chose, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Ça m'a pas du tout fait rire. Mm-hmm. Et après, il y a quelque chose qui m'a vraiment agacée. C'est l'épisode où Chandler fait de l'hypnose pour arrêter de fumer. Et en fait, c'est une cassette qui est destinée à des femmes. Et donc, en fait, bah, il se transforme, entre guillemets, en femme à force d'écouter la cassette. Et donc, bah, visiblement, pour les scénaristes de Friends, être une femme, c'est commenter les tenues des autres femmes, se balader avec la serviette au-dessus de la poitrine et être efféminée, en fait. Enfin, c'est très sexiste et homophobe, cette séquence de blagues-là. Et j'ai pas du tout aimé. Et d'ailleurs, enfin, j'ai fait un petit montage de mes réactions. Je sais pas si on entend très bien, mais c'est, je faisais que souffler, quoi.
Ah, ça t'a vraiment pas plu.
Ah ouais, non, vraiment pas. C'est un des trucs qui, je pense, a très mal vieilli dans la série.
D'ailleurs, en fait, souvent, quand on parle de Friends, on parle des choses qui ont mal vieilli et on parle des blagues homophobes, des blagues grossophobes. Et je voulais revenir un peu sur la façon dont ça avait été reçu à l'époque, Friends, par les critiques et par la presse. Donc, j'ai fait un peu des recherches. Déjà, ça m'a fait marrer parce que j'ai regardé les critiques au moment de la sortie de Friends et c'était assez mitigé. Après, il faut dire que la saison 1 est pas forcément la meilleure et les premiers épisodes sont un peu moyens. On en avait parlé nous-mêmes. Mais alors, bon, il y a des choses positives. Il y a le New York Times qui disait que le casting est charmant et les dialogues très 1994, whatever that means. Ensuite, il y a le LA Times qui dit « Tout est tellement léger et superficiel qu'à la fin de chaque épisode, vous pourriez avoir du mal à vous souvenir de l'intrigue, mais vous saurez que vous avez beaucoup ri. » Donc ça, c'est assez bien. Et après, par contre, il y a des trucs beaucoup plus négatifs, comme Variety qui dit « Ça n'est pas un très bon exemple pour les jeunes. » parce qu'ils trouvent ça un peu trop olé olé. Hein. Mais surtout, le Washington Post, qui à l'époque de la sortie, a dit « Une autre horrible création du duo de lèche-bot professionnel Martha Kaufman et David Crane, Friends est plus un talk show scripté qu'une sitcom. Les acteurs ont l'air sympas et ça fait de la peine de les voir se déshonorer de cette façon. » Donc, c'était assez intense. Mais les trucs qui m'ont beaucoup fait rire, c'est USA Today qui dit « Personne dans la série ne semble avoir mieux à faire que de boire du cappuccino au café local et de regarder de la mauvaise télé chez Monica. » Ça résume assez bien le reste des 10 saisons. Donc,
mais c'est une vie de rêve.
Et surtout, Entertainment Weekly qui a publié une critique qui aurait pu être écrite par toi il y a quelques mois. « Je ne sais pas où Rose vit », dit le critique. « Et il m'a fallu 2 semaines pour comprendre que lui et Monica étaient frères et sœurs et non amants. Schwimmer devrait résister à la tentation bien compréhensible de prendre Courtney Cox dans ses bras avec autant de passion. » Ça, c'est quelque chose que j'ai noté plusieurs fois aussi. Je trouve que parfois, ils se comportent pas trop comme des frères et sœurs. Mais bon.
Ils ont une super alchimie sexuelle, en fait.
Oh mon Dieu.
Mais c'est vrai, les deux acteurs. Enfin, c'est pas de ma faute. Hein.
Mais outre ces critiques au début, ce que je voulais savoir, en fait, moi, c'est comment ça avait été reçu à l'époque sur tout ce qui était blague homophobe ou représentation de l'homosexualité en général. C'est vrai qu'en général, honnêtement, dans les articles que j'ai trouvés à l'époque, dans la presse mainstream américaine, c'est-à-dire New York Times, LA Times et tout ça, c'était plus des articles sur le fait que c'était un peu à la pointe pour le fait que ça représentait un couple lesbien qui en plus avait un enfant et que c'était la première série qui montrait un couple lesbien qui élève un enfant à deux. Il y a un article de 96 de Entertainment Weekly où ils se demandent si Chandler va pas être en fait un personnage gay qui va faire son coming out, parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de blagues sur le sujet, que ses collègues pensent qu'il est gay, qu'il échoue tout le temps dans ses relations avec les femmes. Et donc, c'est une question qui se pose. Et il y a même un activiste de GLAAD, qui est une grande association américaine contre l'homophobie, qui dit qu'il espère justement et qu'il se demande si Chandler va pas s'avérer être homosexuel, ce qui est un peu triste quand on le voit aujourd'hui, parce que Chandler s'est avéré être quand même le personnage qui faisait le plus de blagues homophobes dans la série. Et il y a une époque où, en fait, il se demandait s'il allait pas justement représenter une espèce d'avancée à la télé américaine. Et ça n'a pas du tout été le cas, quoi. Au fil des saisons, Friends est devenu de plus en plus célèbre et de plus en plus populaire avec les guest stars. Et dans cette moitié de saison, on le voit vraiment, il y en a beaucoup. Il y a Ben Stiller. On va écouter ta réaction. Tu t'es enregistré à l'apparition de Ben Stiller.
Ouais.
Waouh. Ouais, wow.
C'est juste ça.
T'étais vraiment impressionnée par Ben Stiller.
J'ai noté dans mes notes Ben Stiller, quel trésor national.
Je l'adore.
J'étais trop contente de le voir.
Ouais, moi aussi. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que celle qui joue Bonnie, donc la nouvelle meuf de Ross, elle est jouée par Christine Taylor, qui est l'ex-femme de Ben Stiller. À l'époque, ils allaient se marier quelques années après. Mm. Donc, dans la même saison, ils sont chacun apparus. Il y a aussi Richard qui arrive. Sans moustache.
Tout à fait. D'ailleurs, Monica lui dit que sa lèvre est chauve. Ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est marrant parce que j'ai regardé cet épisode avec ma mère. Donc déjà, sa première remarque, c'était « Mais je le connais, lui. » Donc j'ai dû dire « Oui, c'est Tom Selleck. » Et ensuite, elle, à un moment, il est très, très grand et il passe à une porte et elle a dit « Putain, il touche presque le haut de la porte. » Donc ma mère et moi, on a les mêmes goûts, visiblement. Elle était très impressionnée par la taille de Richard.
Et puis, bien sûr, il y a Jon Favreau. Alors, Jon Favreau, moi, je dois dire, Jon Favreau qui joue le mec de Monica, mais pendant plusieurs épisodes, en fait, elle ne veut pas être avec lui parce qu'elle ne le trouve pas attirant. J'étais là, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, quoi?
Chez moi ou chez Monica?
Ben non, chez Monica. Qu'est-ce qui va pas chez elle, quoi? Enfin, moi, je parlais à la télé en disant, qu'est-ce qui va pas chez toi?
Ah, donc toi, tu trouves Jon Favreau attirant dans...
Pas toi?
Ben, il faut savoir que moi, j'ai un crush hyper bizarre sur Jon Favreau depuis des années, mais je le préfère maintenant, en fait, que...
Ah non. Qu'est-ce qui va pas chez toi, meuf?
Voilà, c'est pour ça, quand t'as dit qu'est-ce qui va pas chez toi, je pensais que t'allais encore me shamer sur mes goûts bizarres. Non, il est sexy, genre physiquement, mais son personnage est assez repoussant, je trouve, dans cette saison, donc il m'a pas du tout...
Je trouve qu'il devient repoussant, mais qu'au début, quand justement elle est pas attirée par lui au premier abord, j'étais là, mais enfin, pourquoi t'es pas attirée par lui, quoi?
Ouais, non, mais il est très... De toute façon, enfin, Jon Favreau a un charme incomparable.
Sûr.
Mais d'ailleurs, je me suis enregistrée aussi au moment où j'ai découvert que Jon Favreau était dans la série.
Yeah, I'll have a slice of cheesecake and a date if you're giving them out.
Haven't you and I covered that topic? Putain, mais tes réactions au gaspard, quoi.
Ah ouais, non, mais j'étais trop contente. Non, mais
j'étais sûre que ça allait te rendre ouais. Ouf, quoi.
Je savais qu'en plus, on en avait déjà un peu parlé, parce qu'il devait être casté pour jouer dans la série, pour jouer un rôle principal.
En fait, c'était un des élus pour jouer Chandler. Mais ouais. Au final, bon, bah, c'est Matthew Perry. Personnellement, parfois, je me dis, Jon Favreau aurait vraiment été pas mal dans le rôle de Chandler.
Ouais, ouais, vraiment.
Mais il aurait une sexualité que Chandler n'a pas, quoi. Enfin,
ouais, non, il est très, très, très bon. Il est tellement charmant. Et là, il a un très bon timing aussi dans beaucoup de répliques. J'ai adoré.
Il y a aussi Robin Williams et Billy Crystal qui font une petite apparition. Et alors là, c'est marrant parce qu'en fait, c'était complètement improvisé parce qu'ils tournaient une autre série ou un film sur les studios de la Warner, qu'on a visité d'ailleurs, à chaque fois que j'en parlais. Et ils tournaient, ils étaient à côté. Et en fait, on leur a dit, vous voulez pas venir faire une scène. Et du coup, ils ont tourné une scène qui est complètement improvisée. D'ailleurs, ça se voit un peu parce que c'est assez nul. Enfin, moi, je trouve que c'est pas drôle du tout, quoi.
Bah, Robin Williams a un accent espagnol un peu chelou.
Ah, c'était espagnol, tu penses? Ouais.
Ouais. Enfin, ça fonctionne pas très bien, mais en même temps, j'étais hyper contente de les voir. Et après, par contre, il y a une très bonne improvisation des membres du casting, et notamment Joey qui dit « Ah, mais donc, c'est toi le gynéco ?» ou un truc comme ça. Donc, c'est assez marrant à regarder, surtout quand tu connais la backstory. Effectivement, tu te dis qu'ils sont passés, ils passaient par là et ils ont dit « Bon, ben, on vous met dans la scène. » Sympa.
Oui.
How did it go with Pete? Right.
Tell us.
You're not going to believe this, okay? So, I go
over
there.
Excuse me. It's a little crowded. Do you mind if we sit?
Yeah, could you scooch?
Oh, move over just a little bit.
Thank you.
Keep on scooching.
Est-ce que t'en as vu d'autres?
J'étais hyper contente de voir Sherilyn Fenn qui joue la meuf à qui il manque une jambe et donc qui porte une prothèse. Et donc Sherilyn Fenn, tout le monde sait que c'est Audrey dans Twin Peaks.
Perso, je savais pas, mais ouais.
Bah, c'est un personnage ultra culte. Enfin, moi, c'est mon personnage préféré de Twin Peaks. Et elle jouait aussi dans Gilmore Girls, donc un peu après Friends, où elle joue l'ex de Luke. Donc j'étais hyper contente de la voir. J'adore cette actrice et elle m'a fait beaucoup rire.
De tous ces guest stars, c'était qui tes préférés?
Ben Stiller m'a fait mourir de rire. Vraiment, ça se joue entre lui et Richard parce que je suis toujours contente de voir Tom Selleck, même si sans la moustache, on perd un petit truc, quoi. Mais Ben Stiller était excellent. Enfin, pour moi, c'est le stint parfait de guest star, quoi. C'est-à-dire qu'il vient, il est hyper drôle, il repart aussi très rapidement et il est très mémorable.
Ouais, en fait, son rôle, c'est qu'il s'énerve tout le temps et qu'il crie, mais que personne le voit, sauf Ross, alors qu'il date Rachel, donc
c'est ça.
Drôle.
Et à la fin, il est démasqué quand il se met à hurler sur le poussin que Chandler et Joey ont adopté, donc c'est vraiment, enfin.
Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on vient de voir ensemble La Famille Tenenbaum, qui, moi, est un de mes films préférés, où dedans, il est hyper énervé tout le temps aussi, et il a des poussées colériques, donc j'étais là, c'est vraiment, Ben Stiller est connu pour ça, quoi.
C'est clair.
Dans chaque épisode, on élit notre meilleur ami, le MVP des épisodes. Anaïs, c'est qui ton meilleur ami pour ces épisodes?
C'est le bubble butt de Ross.
Oh mon dieu.
J'ai fait plein de screenshots. Non, mais c'est vraiment, c'est le winner de la saison, quoi.
No comment.
Non, mais et toi, c'est qui?
Moi aussi, j'ai fait plein de screenshots. Et en fait, c'est la garde-robe de Rachel dans ces épisodes. J'adore sa façon de s'habiller dans ces épisodes. Voilà. Et qui dit MVP dit aussi gros loser. Qui voudrais-tu exclure du groupe?
Ouais, alors je vais dédier cette exclusion à Amaury qui nous écrit depuis plusieurs épisodes en nous disant « Anaïs, quand est-ce que tu vas réaliser que Phoebe est vraiment la méchante secrète de la série ?» Et là, bah clairement, c'est Phoebe que j'exclurais du groupe à ce stade-là. Ouais.
Mais pourquoi?
Bah, c'est vrai qu'elle s'est révélée assez méchante pendant ces épisodes. Déjà, le truc avec le traducteur, enfin avec l'interprète, c'est vraiment pas sympa. C'est-à-dire qu'elle force Monica à faire un double date avec elle pour qu'elle puisse, en gros, rester seule avec son diplomate. Et après, elle fait la gueule à Monica parce qu'elle est en train d'accaparer l'attention de l'interprète pendant le dîner. Il y a aussi le moment où elle devine que Pete, donc joué par Jon Favreau, ment à Monica et la manipule en lui disant... il lui propose un job et lui dit « Mais t'inquiète pas, il n'y a rien entre nous, je me suis trouvé une meuf. » Or, c'est faux. Phoebe devine ça. Elle confronte Pete qui lui dit « Oui, t'as tout à fait raison. » Et après, elle veut pas le dire à Monica. Enfin, c'est vraiment une amie horrible, quoi.
J'avais même pas noté, bah d'accord.
Ouais, enfin, c'est juste qu'après, on me prévient depuis tellement longtemps où je reçois des messages qui me disent « Tu vas voir, Phoebe est pas sympa. » Et là, j'ai enfin compris.
Si t'avais pas reçu ces messages, est-ce que t'aurais vraiment pensé qu'elle était pas sympa?
Bah ouais, je trouve que c'est vache. Enfin, vraiment, pour moi, le fait de savoir qu'il y a ton petit ami qui est en train de te manipuler et qui t'a fait quitter ton travail pour te proposer un truc, alors qu'en fait, enfin, c'est juste parce qu'il espère te pécho, ce qui est du harcèlement sexuel, quoi. Je sais pas, tu préviens ta pote, quoi. Et elle lui fait faire une devinette en lui disant non, mais c'est pas sur ça, c'est pas sur ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas sympa. Genre, juste dis à Monica qu'elle se fait manipuler par Pete, quoi.
Ok, voilà. Attends.
Et toi, t'exclus qui?
Moi, j'exclus le book de Chandler.
Oh ah oui.
Qui est là pour 4 épisodes, je crois, mais juste pire décision capillaire de l'histoire de la série, quoi.
C'est une horreur. Ouais, c'est vraiment, mes yeux saignent.
C'est le pire des 90s, mais c'était vraiment, vraiment horrible. Donc, j'étais contente quand, dans le dernier épisode, en fait, il a disparu. J'étais Dieu merci. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais.
C'est clair.
On passe aux prédictions, Anaïs. La saison se termine sur un cliffhanger. Rachel et Ross s'embrassent. Bonnie est quand même toujours là. Et en fait, on voit Ross qui arrive dans le couloir et on ne sait pas s'il va aller dans la chambre de Bonnie ou dans la chambre de Rachel. Que penses-tu qu'il va se passer?
Je pense que Ross a choisi la chambre de Bonnie parce que... Enfin, je pense que mon premier instinct, ce serait de me dire qu'il va voir Rachel. Mais du coup, je pense que la série va nous jouer un tour et qu'en fait, c'est plutôt vers Bonnie qu'il est allé. Mais du coup, je pense que il va forcément y avoir de la tension sexuelle qui va perdurer avec Rachel et qu'il y a un moment où ils vont se remettre ensemble, quoi.
Ok. Est-ce que tu as d'autres prédictions pour la suite?
Je sais pas pourquoi je pense ça, mais je pense qu'il y a un moment où ils vont devoir porter un canapé dans un escalier et dire pivote.
T'as vu ça quelque part?
Non, mais enfin, je connais cette scène, mais du coup, enfin, je me dis, il faut que je la prédise à un moment, donc je pense que là, ça va arriver bientôt. Tout le monde m'a dit que les saisons 3 et 4 étaient excellentes, donc j'imagine que c'est parce qu'il y a plein de moments cultes dedans et on en a déjà vu beaucoup. Mais du coup, là, je commence un peu à me dire que ça va arriver.
Il te reste encore 7 saisons quand même, donc
c'est vrai.
Tu peux un peu attendre pour certains trucs. Enfin, je dis rien sur pivote, je sais même plus dans quelle saison c'est, mais. Merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs.
Merci Marie.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slide.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 4 de Friends. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. Amis est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. À la prochaine!
We were on a break!
Anaïs, quelles sont tes notes que tu as prises cette semaine?
Ouais, alors déjà, pour revenir sur Ross et Rachel, j'ai noté que Ross porte beaucoup dans cette saison un pull orange fluo. Donc du coup, le quotient sexitude s'est évaporé real quick. Et pour dire quand même que j'ai vraiment pas apprécié ce qu'il a fait à Rachel avec la meuf de la photocopieuse, j'ai noté pendant leur rupture, elle est sympa Rachel, à sa place, j'aurais crevé les yeux de Ross avec une fourchette rouillée. Donc clairement, il m'avait quand même un peu énervé à ce moment-là. Chandler s'est fait enlever son troisième téton.
Oui.
Rest in peace. Rararou, Ross en t-shirt moulant, gimme.
Bah dis donc, le quotient sextitude est tombé, mais c'est est remonté très vite.
C'est clair. J'avais aussi noté que le book de Chandler est horrible. Et j'ai noté que Chandler se fait agresser sexuellement par son patron qui lui tape sur les fesses. Ouais. Et franchement, mais après le tailleur, ça fait quand même beaucoup d'agressions sexuelles pour pauvre Chandler, quoi.
C'est vrai.
Qu'on lui donne un break, quoi. J'aime Joey. J'ai écrit ça. À la fin du dernier épisode, j'ai écrit « Bon, j'ai tout vu venir, mais c'était sympa.
» Moi, j'ai noté, j'ai une note aussi. C'est un moment quand Ross a son espèce de truc bizarre sur les fesses, là. Mmh. En fait, on voit très très vite son caleçon et c'est un caleçon dinosaure.
Ah putain. Voilà, j'en peux plus.